Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Nous avons évoqué notre rapport au corps hier, et bien sûr que notre aspect physique joue un rôle important dans la séduction. Néanmoins, la beauté n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le premier critère de séduction. L'esprit joue également son rôle, et à mon avis, la première qualité pour séduire, c'est d'avoir envie de séduire. Or, c'est un état d'esprit, c'est une manière de se présenter, de s'habiller aussi, et puis de communiquer, de savoir communiquer avec celui qu'on a ou celle qu'on a en face de soi. Faut-il peut-être d'abord faire la différence entre ce qu'on appelle la drague, qui consiste à trouver quelqu'un pour passer un moment, ce quelqu'un étant finalement assez interchangeable, et puis la séduction qui est un peu plus orientée, c'est-à-dire l'envie de plaire à une personne en particulier, qui d'ailleurs le plus souvent nous a plu. Sylvain Mimoun est avec moi, et si j'ai choisi ce thème, ce n'est pas seulement parce que nous sommes au début de l'été, la période évidemment la plus propice à la séduction, mais aussi parce que les hommes ont tendance à perdre un peu leurs moyens face aux femmes qui sont de plus en plus entreprenantes. Alors, quelle est la latitude des hommes et des femmes face à la séduction à notre époque actuelle? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'évoquer ensemble. Et puis, alors, surtout, n'hésitez pas à venir donner votre avis, à témoigner. Est-ce que vous aimez, en tant qu'homme, être dragué ou être séduit par une femme? Est-ce que vous, en tant que femme, vous considérez que c'est toujours aux hommes de séduire? Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Et bien sûr, Sylvain Mimoun, vous allez nous donner quelques conseils de séduction. Bonjour.
Bonjour.
Oui, je ne crois pas d'abord que ce soit uniquement une question de physique.
Ah non, non, non. Ça, c'est, je dirais presque que c'est une question d'état d'esprit. D'état d'esprit, d'ouverture, de confiance en soi. Ça, c'est très important. Si on a confiance en soi, j'ai rencontré des hommes ou des femmes qu'on pourrait qualifier de pas beaux ou pas belles et qui étaient tellement confiantes en elles qu'elles ont pu emporter le morceau, c'est clair. Elles savaient ce qu'elles voulaient, elles, quand elles souhaitaient ou quand elles désiraient quelqu'un, elles le manifestaient. Parfois de manière, la plupart du temps pour que ça marche, c'était quand c'était léger, mais parfois de manière un peu lourde. Et quand c'est un peu lourd, là on risque de rater son coup, quelles que soient les qualités qu'on a au départ.
Alors léger, oui, parce qu'on sait que l'humour, par exemple,
c'est quelque chose qui aide
un
beaucoup.
Un humour assez fin.
Assez sûr. Fin, voilà, pas lourdin, quoi.
Oui, exactement. Alors, les femmes, aujourd'hui, sont plus nombreuses à séduire. Hein. Ce sont même souvent elles qui font maintenant le premier pas. Et vous qui avez récemment sorti un livre sur, justement, les érections, hein, Restons fermes, aux éditions Erol. On a un chiffre qui m'a un peu surprise, mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont sexophobes, hein, qui ont des problèmes d'érection. Est-ce que c'est dû à ce fait que les femmes sont un peu trop entreprenantes ?
C'est dû au fait que les femmes leur font peur. À ces hommes-là qui sont peut-être un peu fragiles psychologiquement, qui n'ont pas assez confiance en eux, et qui, voyant qu'on les agresse en les draguant, alors que ça devrait les faire rêver, parce que justement, on leur sert ça sur un plateau, d'une certaine façon. Comme elles sont parfois un peu revanchardes, ou qu'ils croient qu'elles sont revanchardes, à ce moment-là, ils arrivent à reculons. Et en arrivant à reculons, j'ai même rencontré des hommes qui partaient gagnants, et par le fait qu'ils les avancent à reculons, a fait que la femme abandonnait en cours de route. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir quelqu'un que l'on sent se forcer à aller dans le sens qu'elle lui demande, quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est encore mieux quand c'est l'homme qui drague, ou bien il y a une...
Non, ce qui est le mieux, c'est quand la personne qui a envie de draguer, drague. Que ce soit l'homme ou la femme. Et ce que je donnais il y a quelques années comme conseil aux hommes, laissez-vous faire si jamais on vous drague, si tant est que l'autre vous plaise.
Bien sûr.
C'est bien ça le but du jeu. Mais l'erreur, c'est qu'il ne faut pas tomber comme chez l'homme que j'ai rencontré hier en consultation et qui me disait, quand je décidais qui il fallait que ça soit cette personne. Et ça devient une sorte de challenge qui est plutôt bloquant qu'ouvrant, quoi.
Oui, et c'est là où il faut peut-être faire la différence entre ce qu'on appelle la drague et la séduction. Finalement, la drague, bon, bah, on essaye de, on drague
d'obtenir,
parce qu'on a envie d'avoir une relation sexuelle, ou en tout cas, on a envie de passer un moment agréable avec l'autre sexe. La séduction, c'est déjà peut-être quelque chose qui n'est pas
se
forcément...
Faire plaisir, c'est se faire plaisir à échanger avec l'autre. Et si on voit que l'autre est au même niveau que nous, sur le plan de l'esprit, de la drague, de l'humour, de l'intelligence, voire de la culture, ça ouvre le débat complètement. Et là, on se laisse porter par le flot, quoi.
Et il y a toujours des rapports de séduction, de toute façon, entre les hommes et les femmes, hein, même si ce n'est pas toujours dans le but d'avoir une relation, sexuelle.
Exactement.
Hein. Et à partir de quel moment on se rend compte que la séduction est un peu plus orientée, justement?
Bah, quand il y en a un des deux qui a un but dans la tête. C'est déjà arrivé que l'homme ne sente rien venir et se rende compte après coup qu'en fait, il est en train d'être dragué. Et quand on se rend compte de ça... à ce moment-là, soit on se dit « mince, comment j'ai même pas vu ça ?» soit au contraire, on essaye de se réadapter comme on peut à la situation présente.
Et alors,
et ça, c'est quelque chose qui arrive, quoi.
J'entends bien, Sylvain Mimoun, vous êtes un homme, donc justement, ça vous est donc arrivé de vous faire draguer sans vous en rendre compte. Et à quoi on finit par s'en rendre compte ?
Alors, en ce qui me concerne, c'était surtout parce que je me rendais compte que la femme en question ne me quittait pas des yeux pendant qu'elle me parlait. Alors que moi, j'étais en train à penser à ce que j'étais en train de lui raconter. Et elle n'était plus dans ce que j'étais en train de lui raconter. Ça, elle ne s'intéressait plus. C'est ce qu'elle voulait, c'était moi. Et le reste ne l'intéressait pas trop, ou peut-être pas trop. Ça, c'est un des éléments. Il y a des fois où tout d'un coup...
Donc vous voulez dire que quand une femme regarde assez fixement dans les yeux un homme, c'est plutôt parce qu'elle a envie d'autre chose que simplement l'écouter.
Voilà, d'accord. Exactement. Si on pouvait passer à autre chose.
D'accord, donc ça c'est déjà un indice assez clair.
Assez clair et fort.
Oui.
Alors toutes les femmes ne sont peut-être pas pareilles, mais globalement, j'ai un peu quelques heures de route, comme on dit, et donc je peux dire que ce que je raconte là se vérifie. Alors, ce que je n'ai jamais voulu faire et jamais su faire, c'est les hommes qui se donnent des buts avant même de commencer quoi que ce soit. Ils se disent « ce soir, il faut que j'en drague une ». Ça, c'est plus de la drague. C'est une sorte
c'est
de
marchand. C'est un tableau de chasse.
Oui. Un tableau de chasse, voilà. Mmh. C'est vraiment l'aviateur qui donne un coup de craie sur le tableau.
Mais c'est d'ailleurs Alain Soral qui avait écrit donc « Sociologie du dragueur » il y a très longtemps et qui est... Autant ce qu'il écrit aujourd'hui est peut-être illisible, mais en tout cas à l'époque ce livre était intéressant, disait bien de toute façon quand on drague 10 femmes dans la soirée, on est pratiquement sûr qu'il y en a une qui dira oui. Vous êtes d'accord avec ça ?
Relativement, en tout cas ce que je sais, et ça c'est la différence peut-être entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes sont très sensibles au fait que cet homme-là qui les drague a déjà dragué d'autres nanas devant elles. Qu'il l'a vu. Si cet homme était isolé avant et qu'il vient se mettre à draguer 10 femmes, il n'aura pas beaucoup de succès. Si on le voit draguer et être à chaque fois avec une femme, et a fortiori si elles sont belles, elles sont toujours, ou presque toujours, dans la compétition, ou en tout cas dans...
Il y a le fameux désir mimétique.
Voilà, exactement.
Puisqu'il a fait l'amour avec cette jolie femme,
c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de regardable.
C'est ça. De toute façon, il n'y a pas trop de techniques précises de drague. Hein, ça va dépendre un peu de... alors, déjà du lieu. C'est plus facile, évidemment, de séduire quelqu'un dans un lieu clos que dans la rue. Et le plus difficile, oui. C'est évidemment dans la rue. Hein, parce
bien
que,
sûr. Et puis, il y a des époques. Il y a 20 ans, 30 ans, draguer dans la rue, ce n'était pas bien vu, mais ce n'était pas mal vu.
Aujourd'hui, c'est dangereux.
Maintenant, ça devient dangereux.
C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, en tout cas, les conseils pour séduire, c'est déjà de se présenter bien et de pas être trop lourd. Hein.
Alors, surtout à l'époque actuelle où le respect arrive en premier plan, on peut avoir envie de séduire une femme. Rien n'empêche de continuer à être respectueux tout le temps. Si on reste sur les rails, les choses peuvent bien se passer. Pas obligatoirement, mais ça peut bien se passer. Et si ça se passe bien, ben tant mieux pour vous, mais jouez le jeu, quoi.
Voilà. Ce qui est difficile aussi, et peut-être qu'on aura quelqu'un qui va nous appeler avec ce souci-là, ce qui est difficile aussi, c'est de se faire rembarrer. Et quand on va vers, qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, quand on va vers l'autre, ça ne marche pas à tous les coups. Donc forcément, on subit des échecs. Il faut passer outre et continuer.
Voilà. D'autant moins, il faut d'autant moins abandonner que quand on se lance, on ne sait pas vers où on se lance. Et là, il faut absolument que justement, on reste sur le terrain positif de la relation.
On va parler...
Si on a de l'humour, ça se passe mieux.
Oui, ça c'est sûr. C'est pas donné à tout le monde non plus. Merci. En tout cas, on parle de tout ça avec vous et avec Sylvain Mimoun. Vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826-300-300. À tout de suite.
14h, 16h. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
La séduction, on en parle avec Sylvain Mimoun et n'hésitez pas à venir témoigner. Est-ce que vous préférez séduire? Est-ce que vous préférez être séduit? Est-ce que ça peut parfois vous faire perdre un petit peu vos moyens quand ce sont les femmes qui séduisent? On en parle avec vous, bien sûr. Et c'est Jérôme qui ouvre le bal, si je puis dire. Bonjour Jérôme.
Bonjour Brigitte, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Oui, voilà, moi, ça, je voulais témoigner parce qu'en fait, bon, c'est vrai que bon, je suis un homme, donc j'aime bien, et puis pour moi, c'est dans la logique des choses draguer. Donc, mais quand il m'est arrivé un truc hallucinant, je me suis fait draguer, mais c'est hyper déstabilisant, en fait.
Eh oui.
En fait, moi, personnellement, ouais, j'ai vite le cerveau qui a cramé, en fait, complètement, quoi.
Donc, tant que c'est que le cerveau, ça va.
Oui, 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 c'est pas passé loin de le sous-cramer, mais bon, c'était il y a juste quelques petites années en arrière, on était invité à un gros barbecue chez un ami avec une grosse maison à étage, tout ça, très sympathique. Donc, il commençait déjà la soirée, donc à prendre l'apéro, tout ce qui fait bien, quoi. Et là, il arrive, en fait, un homme, une femme, donc je suppose un couple comme tout le monde. Et puis, la femme, je veux dire, une bombe atomique. À mes goûts, quoi. Tout au moins une brune aux yeux verts. Enfin, un truc qu'on voit rarement quand même, hein, dans la vraie vie. Donc, vraiment la. Oui, il faut dire ce qui est, c'est pas courant quand même. Donc, moi, voilà le truc que je craque déjà totalement. Et puis, ça a dû se voir à ma tête parce que la jeune femme est venue vers moi. Dire bonjour à tout le monde, tout ça. Et elle s'est attardée près de moi, alors que bon, moi, ma femme était dans le coin, donc on passe à table, chacun se met un petit peu comme bon lui semble, et on se met côte à côte, cette jeune dame, ensemble, et on commence à discuter et tout ça. Et puis donc, ma femme, qui était plus ou moins en face, en diagonale, sur les grandes tables, jetait des petits regards bizarroïdes, et puis elle n'hésitait pas à appeler mon chéri, tiens, passe-moi le sel, tiens, passe-moi le ketchup, tout
oui,
ça.
Enfin, bref. Elle marquait son territoire.
Tout à fait. Et gentiment, la jeune femme à côté de moi, qui me regarde avec un gros sourire, donc il n'arrêtait pas de me sourire, donc c'était déjà très déstabilisant. Puis elle riait à toutes les bêtises que je pouvais dire. Je vous disais, fourchette, elle était morte de rire, quoi. Enfin, bref. Et puis elle me dit, c'est sympa d'être venue avec votre petite soeur, vous êtes proche, pour vous appeler mon chéri tout le temps. Je me dis, mon Dieu, elle me fait quoi, là? Elle a bien compris que c'était pas ma soeur, quoi. Je veux dire. Et en fait, elle a commencé donc à me draguer, je veux dire, discrètement, mais avec un aplomb absolument incroyable. Après, elle a commencé à mettre discrètement la main sur ma cuisse. Je veux dire, honnêtement, j'avais le cerveau qui croustillait. Ah oui, sous la table. Mais honnêtement, j'arrivais pas à me décrocher de son regard, de ses yeux, quoi. Je veux dire, en plus, elle était bien faite, hein, qui n'est pas pour déplaire. Donc, c'était juste hallucinant. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, je vais me rafraîchir à l'étage et si tu veux, dans deux minutes, tu montes. J'ai oublié le gros mot. Et honnêtement, je sais pas. J'ai dit d'accord. Et au bout de deux minutes, j'ai regardé mon portable. J'ai suivi à l'étage, je suis monté, elle était dans la salle de bain. Voilà, on s'est pris, enfin, je l'ai attrapé naturellement dans mes bras, j'ai commencé à l'embrasser, elle m'a embrassé, et là, surgit le propriétaire, ami, heureusement, et coup de bol, enfin, dans le feu de l'action, j'avais même oublié de fermer la salle de bain, quoi, je veux dire, c'est grave quand même, hein. Donc, il m'a dit, mais attends, Jérôme, il y a ta femme en bas, elle te cherche, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, je lui ai dit, mais au bout des yeux, abruti, je suis en slip, enfin, bref, et, j'étais parti très vite, quoi, et en fait, bon, on a repris, c'est passé un coup d'eau froide sur la figure, je suis redescendu le premier, elle est redescendue quelques instants après, et je n'ai su que, voilà, tard dans la soirée, qu'elle s'était brouillée avec son mari en arrivant, et qu'elle avait envie de s'éclater d'un coup d'un soir. Donc je n'ai jamais su, en fait, si elle m'avait dragué pour mon physique avantageux, parce que je suis un beau
mais
gosse.
Mais si, bien sûr que si, je vois.
Voilà. Ou c'était vraiment uniquement par une cruelle petite vengeance mesquine, mais honnêtement, j'ai perdu, j'étais pas...
Vous aviez perdu la tête.
Ma femme, avec total, je veux dire, c'était la première fois, puis là c'est... mais avec élégance, c'était pas grave, c'était pas vulgaire, quoi, je veux dire, ça, elle m'a retourné le cerveau, mort total, quoi. C'est impressionnant, déstabilisant.
Oui, mais je crois que beaucoup d'hommes peuvent en arriver à perdre la tête, hein, Sylvain Millier.
C'est pour ça que beaucoup de films tournent autour de ça. Avec, quand il y avait... la fameuse Marilyn Monroe, elle jouait que là-dessus, sur comment les hommes perdaient la tête dès qu'ils la voyaient. Elle était très belle, il n'y avait rien à dire. Il n'en demeure pas moins, même si ça date de beaucoup de décennies maintenant. Je suis sûr qu'aujourd'hui, n'importe quelle femme qui sait jouer de ses charmes pourrait faire tourner la tête d'un homme bien fait dans sa tête, en théorie.
Oui, parce que là, vous aviez votre femme en face de vous, donc c'était complètement... Enfin, c'était très dangereux, parce que votre femme, elle a bien vu qu'elle montait, et puis que vous avez suivi quelques minutes après.
Ah, tout à fait. Moi, heureusement, c'est le copain qui s'est aperçu du petit jeu, qui nous a suivi, il a eu du bol de nous trouver lui en premier, parce que voilà, moi j'étais en Bermuda, donc j'ai vite fait tomber le Bermuda, tout ça. Je veux dire, c'est à deux minutes, c'était le carnage dans la salle de bain, quoi. Je veux dire, si ma femme rentrait, c'était mort, quoi. Je veux dire, mon couple était fini et voilà.
Il y a eu une crise avec votre femme ou non aussi, quoi.
Disons que Almaty a été collante, ta copine de table en fin de journée. Je fais oui un peu, hein, t'as remarqué aussi. Elle me dit après, bon, elle s'est bien rendu compte. Elle me dit mais t'as vu comment tu l'as regardée. Donc en fait, je fais oui, bon, elle était jolie quand même. Donc ça a été compliqué quand même à gérer, mais heureusement qu'elle s'est pas aperçue du reste. Et, bon, elle a jamais su que je l'avais embrassé, mon copain. Oui, parce qu'il m'a vu le faire. Il est arrivé à ce moment-là. Mais c'est honnêtement, je veux dire. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que ça me serait arrivé puis en deux heures de temps, quoi. Hein. Donc, j'étais pas parti dans l'optique de tromper ma femme ni quoi que ce soit, mais là, franchement, je veux dire, puis aucun scrupule, hein. Je veux dire, je savais que ma femme était en bas à 10 mètres à vol d'oiseau, on va dire, mais j'en avais strictement rien à cirer. C'est hallucinant. Hallucinant total. Donc, c'est.
Mais c'est là où on voit la force de la pulsion, hein, parce que là, en effet, c'est purement, c'est purement pulsionnel. Il y a rien de réfléchi, bien au contraire. C'est-à-dire que la pulsion.
Elle a dû voir sur ma tête que je la trouvais très jolie et désirable, quoi, je veux dire. Et puis elle en a joué, mais j'ai rien vu venir. Honnêtement, Brigitte, elle m'a retourné le cerveau qu'en deux heures, j'étais fait, quoi. Elle m'aurait dit, tu montes en rampant les escaliers, je serais monté en rampant les escaliers, quoi. Ah, c'est terrible. Je suis faible, Brigitte, mais enfin, je n'ai rien fait, mais franchement, c'est...
Vous êtes pardonné, Jérôme.
Mais ouais. J'avoue que je l'avais revu après, quelques mois plus tard, dans une soirée, et j'étais très, très, très mal à l'aise, quoi. Je veux dire, donc, c'était... elle m'a souri, on s'est fait la bise, comme si pratiquement rien n'était passé, mais j'ai tenté une approche, moi, une petite amorce. Bon, je me suis fait gentiment rembarrer, donc j'ai compris que ça allait mieux avec son mari, quoi. Mais heureusement, je l'ai plus jamais revu parce que les deux fois où je l'ai croisé, j'ai été troublé, mais à un point inimaginable, quoi. Hallucinant, quoi. hallucinant.
Et rien que d'en parler, on sent que ça vous titille encore.
Voilà.
Mais merci en tout cas, Jérôme. De
peut-être cette... qu'elle va vous écouter à la radio et elle va vous recontacter.
Bruno Gilbert, j'espère qu'elle se reconnaîtra.
Bon, on fait quoi, on fait quoi, Jérôme? Si on a son appel, on vous met en lien.
Elle s'appelle Sonia. Voilà, comment je t'ai dit. Si Sonia vous appelle, c'est moi. Vous pouvez transmettre mes coordonnées.
D'accord. Donc, si une jeune femme aux yeux verts, une brune aux yeux verts, qui s'appelle Sonia, nous écoute, elle est priée d'appeler tout de suite SOS 0826 300 300. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore le feu dans la tête de Jérôme.
Ouais, il faut mettre un peu de calmant dans tout ça.
Merci en tout cas Jérôme de cette anecdote.
Merci
vous aussi, n'hésitez pas à venir nous raconter sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant. Sexy News.
Eh bien, Sylvain Mimoun, on retrouve Christine Dautuile qui nous appelle d'Espagne et qui va nous dire si c'est sexy ou pas l'Espagne. Bonjour Christine.
Et bonjour Brigitte, bonjour à tous.
Bonjour.
Buenas tardes. Bonjour Sylvain Mimoun. Alors oui, l'Espagne est différente, comme ils disent ici. C'est la deuxième destination touristique au monde après qui? Ben après la France.
La France, pas quand même, oui.
Et voilà, voilà. Et c'est quand même les seconds. On se retrouve d'ailleurs avec des personnalités qui adorent l'Espagne.
On sait pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est pas cher? Est-ce que c'est parce que c'est un très beau pays? On ne dira pas le contraire.
Alors je pense que le climat est déjà la première cause qui attire de nombreux touristes, et notamment ce qui est assez nouveau, c'est les touristes des seniors. Et c'est pour ça, parce que vous savez, en Espagne, vous l'aviez déjà noté, mais on parle de la retraite comme la jubilación, qui est beaucoup plus sympathique que la retraite. Donc de nombreux seniors, évidemment, viennent en Espagne, mais il n'y a pas que les seniors. Parce que l'Espagne attire les jeunes. Et pourquoi? Parce que qui dit Espagne dit fiestas. On ne peut pas parler de l'Espagne sans faire la fête. Pourquoi? Parce que c'est le pays où il y a le plus de fêtes en Europe, le plus de jours fériés donnés à la fête. Tout est prétexte à la fête. Les Espagnols sont des fêtards, c'est un art de vivre. Donc,
puis il y a la sieste aussi.
Alors la siesta, c'est ce que je vais faire justement après vous avoir quitté, c'est-à-dire qu'on mange tard et on fait la sieste. Mais évidemment, c'est là, à l'heure où je vous parle, il doit faire déjà pas loin de 40. Donc on comprend, ce n'est absolument pas que les Espagnols sont des fainéants, c'est que pour pouvoir, je dirais, avoir une journée agréable, on mange tard.
C'est-à-dire, oui, c'est ça. On travaille on s'occupe le matin, on mange tard, ensuite on fait la sieste et on reprend la vie à 5 heures du soir, c'est ça? Ou 6 heures?
Tout à fait. La vie à 5 heures du soir.
Et on mange très tard.
Et on mange tard. Tout est décalé. C'est-à-dire que, par exemple, pour le soir, ou à partir de 18 heures, je dirais que la vie commence à reprendre, au niveau des magasins, au niveau des bars. Ce qui est très typique ici, c'est ce qu'on appelle les bars à tapas. Donc, à partir de 18h, petit à petit, la vie nocturne commence à s'animer. Une vie trépidante. Mais le début de soirée, en Espagne, bizarrement, est beaucoup plus tard que chez nous. On commence vraiment à faire la fête à partir de 23h. Donc, 23h, les petites tapas, les bars, la movida. La movida, c'est-à-dire qu'on part en discothèque à peu près jusqu'à 4h du matin. Et ce soir, c'est une nuit sans fin. On se dit, il n'est pas rare de trouver à Barcelone, à 10h du matin, des gens qui continuent à faire la fête. Et c'est aussi le revers de la médaille, puisque à force de faire trop de fiestas, il y a notamment les Barcelonais qui râlent, en disant que le tourisme devient un peu un tourisme alcoolisé. Et avec le soleil, vous imaginez que ça fait des dégâts. Parce que la sangria, c'est bien. La sangria avec le soleil, c'est un peu moins bien. Donc, on retrouve ça. Mais il n'y a pas que la sangria. Parce qu'on parle toujours de l'Espagne, des tapas, de la sangria. Mais il y a aussi un petit alcool. Ou quand vous mangez, les Espagnols sont très accueillants. Ils n'hésitent pas à vous mettre le petit chupito. Et le petit chupito, il faut plutôt y aller le soir et surtout pas à midi. Puisque là, c'est pas la siesta, c'est la siesta totale. Et on ne se lève plus.
Donc, et puis, l'abus d'alcool, pour rester ferme, après, Sylvain Mimoun, c'est pas terrible.
Voilà, c'est difficile, exactement. Ça retarde et l'érection et l'éjaculation et le plaisir Et donc, du coup, ça fait un pétard mouillé, c'est dommage.
Oui. Totalement, totalement. Donc, c'est pour ça que certains, les jeunes aiment aussi, évidemment, à cause de la siesta, mais on sent que les parents, de plus en plus, donnent des indications à leurs enfants en leur disant « Attention, l'alcool et le soleil ne font pas bon ménage. » Et c'est clair. Donc, trop d'alcool, évidemment des comas éthyliques, ça c'est clair, mais il n'y a pas que ça, parce que qui dit alcool aussi, qui dit fête, dit sexe. Et ça, c'est peut-être une partie un peu moins sexy d'Espagne, c'est que ça devient le troisième pays du tourisme sexuel, après la Thaïlande et après Porto Rico.
Ah oui, à ce moment-là. Mais je crois que les bordels sont autorisés en Espagne, si je me souviens bien. Alors,
voilà, l'Espagne, c'est un peu toujours mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que la prostitution n'est pas légale, elle n'est pas illégale, mais elle est totalement tolérée socialement, donc le plus vieux métier du monde, et ils ont compris qu'il y avait un gros business autour de ça. Donc en fait, de manière individuelle, c'est légal, de manière organisée, c'est illégal. Le proxénétisme est totalement, évidemment, illégal en Espagne. Par contre, de plus en plus de bordels, comme on disait dans l'ancien temps, se multiplient, et notamment à la frontière française et espagnole.
C'est ce que j'avais entendu dire. Donc ce sont des lieux où il y a beaucoup de femmes qui se réunissent et qui accueillent les clients, quoi, en fait.
Alors c'est ça, et notamment une ville qui est extrêmement connue à notre frontière, qui est Runcara, et tenez-vous bien, il y a à peu près, il dénote 80 clubs, donc qui sont tous avec des décors un peu érotico.
80 clubs de bordel en fait.
Érotico-kitsch, 80 bordels, érotico-kitsch, voilà. Avec, alors c'est vrai qu'ils essayent que ça soit plus hygiénique, plus festif, et avec le plus grand club de la prostitution d'Europe, c'est-à-dire un club de plus de 2700 mètres carrés. Je vous laisse imaginer. Et tout est extrêmement organisé, c'est-à-dire que vous avez, ça c'est évidemment à l'ère de tout numérique, c'est-à-dire que quand une fille arrive, sa photo est tout de suite propagée sur Internet, on sait qu'elle est là, donc les clients peuvent déjà réserver par avance la fille qu'ils souhaitent. Alors, évidemment, là, c'est comme tout, il y a le pile et il y a le face. Il y a plus de sécurité pour ces demoiselles. On parle de 80% quand même d'une prostitution étrangère. L'autre côté, comme toujours, c'est un petit peu délicat de dire est-ce qu'il faut ouvrir les bordels. C'est évident qu'en Espagne, c'est devenu un rite initiatique.
En tant que journaliste, Christine Dautuil, vous connaissez le pourcentage, par exemple, sur une passe que touche la fille et que touche la personne qui tient ce lieu? Parce que c'est peut-être ça la vraie réponse, non?
Tout à fait. La vraie réponse, c'est qu'on parle de 70% pour la fille, 30% pour l'hébergement. Donc ce n'est pas du proxénétisme, c'est presque, entre guillemets, une location hôtelière. Et effectivement, quand vous entendez les filles en parler, elles expliquent qu'elles se sentent plus en sécurité. Et quelque part, elles savent exactement, finalement, à la fin, qu'est-ce qui va leur rester dans leur poche. Ils essayent de réglementer ça. Bien entendu, il ne faut pas se faire d'illusions. La mafia n'est jamais très loin. C'est selon un petit peu les établissements. Et pour vous dire que c'est un commerce qui marche, de nombreux Français sont allés aussi en Espagne ouvrir des clubs. Puisque globalement, ils ont une paix royale, c'est gagner plus d'argent en prenant moins de risques. Et sur cette Runcara, il y a plus de 90% de Français qui y viennent. Et c'est assez drôle parce qu'il y a un péage, et on sent les Français, ils avaient montré ça, les Français essayent de pas payer le péage, mais ils font l'aller-retour dans la nuit. Certains deviennent addicts, puisque certains, c'est une partie de leur salaire, mais c'est vraiment le... Runcara, c'est devenu le bordel européen.
Ça, c'est un peu triste enfin, je veux dire, c'est pas le plus beau du tourisme qu'on pourrait imaginer en Espagne. Hein.
Non, exactement. Et les Français essayent de gratter quelque chose, là, plutôt que de gagner quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors, de l'autre côté, heureusement, il y a aussi les femmes ont pu s'organiser. Et ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a un syndicat des travailleuses de sexe. Pour essayer, effectivement, que ces filles, elles doivent déclarer leur argent. mais effectivement, elles sont un petit peu plus protégées. Donc, je rentrerai pas dans ce débat, effectivement, d'ouverture ou pas des maisons closes. Malheureusement, ce qui est clair, c'est que c'est pas la meilleure image de l'Espagne.
Non, non, c'est clair. Mais c'est quand même un pays très paradoxal, l'Espagne, parce que c'est un pays très, très religieux, quand même, hein, peut-être plus même que la France. Et en même temps, ils sont en avance sur nous. Ils ont été en avance sur nous pour le mariage pour tous. Ils sont en avance. Ils ont été en avance. Et ils ont, vis-à-vis de la prostitution, ils sont quand même plus libres, enfin libérés que nous. Hein.
Les Français. Oui.
Nous, on a quand même été jusqu'à pénaliser les clients. Mais bon, là, de toute façon, le débat de la prostitution, à mon avis, on n'a pas encore
trouvé la bonne réponse.
Oui, ouais, non, je crois qu'on n'est pas prêt de le résoudre. Ce qui est triste.
La réponse est difficile et vous avez totalement raison sur ce côté paradoxe. C'est-à-dire que l'Espagne reste un pays très machiste. J'en parlais justement à l'aéroport avec des femmes qui disaient que les salaires ne sont pas aussi égaux, elles se battent. Mais de l'autre côté, l'Espagne, on se demande si elle ne deviendrait pas petit à petit une bonne élève contre les violences faites aux femmes. Un petit chiffre, il y a 2 fois moins de féminicides en Espagne qu'en France. Donc c'est ce côté paradoxal. C'est
proportionnellement à la population, hein, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait, proportionnellement à la population. Donc il y a effectivement beaucoup de
machos. Il faut dire que les hommes sont tellement machos que les femmes sont soumises. Elles n'osent pas se... Non, je plaisantais.
Non, mais c'est intéressant. Ce côté, un chiffre aussi qui m'a surpris, par exemple, quelle est la première cause de divorce en Espagne? Qu'est-ce que vous diriez?
Parce que l'homme va au bordel.
Eh ben non.
Sylvain Mimoun, qu'est-ce que vous diriez? Non, je plaisantais. Hein, c'était la première cause de divorce en Espagne, Sylvain Mimoun.
C'est que les femmes savent ce qu'elles veulent et c'est elles qui demandent le divorce.
Alors, il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, mais la véritable réponse, c'est l'argent. C'est l'argent, les femmes. Alors, est-ce que la crise de 2008 a eu un effet? Mais les femmes partent à un moment donné pour des problèmes pécuniers.
Mais c'est-à-dire
d'infidélité. C'est-à-dire que si l'homme perd son emploi, on sait que le divorce va être plus rapide derrière.
D'accord. Donc les hommes sont peut-être plus machos, mais les femmes sont encore dans cette idée que c'est l'homme qui assure le quotidien du ménage.
Totalement, ouais, totalement. C'était encore une fois, et vous l'avez dit, c'est un pays traditionnel, de culture catholique très forte.
Ouais.
Et l'homme doit être, en Espagne, doit être un homme, donc travailler. Donc là, j'étais assez surpris.
Non seulement travailler, mais ramener l'argent, quoi.
Tout à fait.
Et alors, est-ce que vous savez, parce que ça va intéresser beaucoup Sylvain Mimoun, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes d'érection en Espagne? Certainement pas, alors, s'ils sont machos.
Alors, c'est là un des avantages, effectivement, de l'Espagne, c'est que la sexualité est plus intégrée, effectivement, à la fête. Donc, il y a moins cette histoire, il y a effectivement... On sort, on fait la fête et on finit au lit. Question de fidélité, les Espagnols, on ne peut pas dire que c'est bien pour ça que ce n'est pas une question de divorce. Ils comprennent que la vie, on a le droit de ne pas être fidèle toute une vie.
Enfin, les hommes, mais les femmes, c'est peut-être plus compliqué. Parce que les machos ne sont pas fans de l'infidélité de leur femme.
Non.
Oui, mais à un moment donné, l'infidélité ne se fait pas tout seul. Donc, il faut bien qu'il y ait des femmes en face.
Il y a les bordels, c'est pas Christine.
Oui, mais non, faut pas croire que les Espagnols sont, que les Espagnoles femmes sont, non, on en trouve beaucoup, elles sont libérées, elles ont le sens de la fête, elles ont le sens de l'honneur aussi, hein, parce qu'en Espagne, le sens de l'honneur, c'est un pays qui est orgueilleux, mais dans le bon sens. Ils privilégient tous une qualité de vie et une convivialité, et je dirais qu'on pourrait en prendre exemple, en tout cas chez nous, de temps en temps. C'est un pays extrêmement accueillant.
Oui, mais là, vous... J'allais dire vous prêchez pour votre paroisse, mais c'est... Bon, bah, profitez
tout
bien de l'Espagne, Christine de Tulle.
Allez, pour pas prêcher, pour ma paroisse, je dirais viva España y viva Francia.
D'accord. Voilà. Merci Christine. Allez,
merci.
On se retrouve dans un instant avec Sandra qui voudra également témoigner sur, non pas de l'Espagne, mais sur la séduction. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Sylvain Mimoun est avec nous. Vous êtes gynécologue, andrologue et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, Restons fermes, et c'est un livre où vous parlez donc des nouvelles solutions pour retrouver ces érections qui n'ont rien à voir évidemment avec le Viagra. Et c'est aux éditions Erol. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Sandra est avec nous. Alors c'est intéressant parce que Sandra, vous êtes lesbienne, hein, et donc la question, c'est la question de se draguer entre femmes. Et j'imagine que la plus grande difficulté, c'est déjà de savoir si on a en face une femme qui aime les femmes, non ?
Oui. Oui, alors avant tout ça, d'abord je voulais vous remercier Brigitte pour tout ce que vous faites, pour tout le bien que vous m'apportez et que vous apportez à d'autres personnes.
Vous êtes en train de me séduire, Sandra.
Oui, si seulement je pouvais. Bon, enfin, et donc, pour vous dire aussi que vous dites, vous allumez la lumière et ensuite on range notre bordel. Alors, vous avez allumé la lumière, oui. J'ai rangé, c'est pas tout à fait tout rangé, mais j'y vois plus clair. Voilà. Donc, merci pour ça. Et,
J'adore, parce que c'est vrai que c'est une expression que je donne de temps en temps, que je trouve assez imagée, mais qui est assez juste.
Oui. Mais voilà, on y voit plus clair, bien sûr, mais bon, il y a du boulot.
Rassurez-vous, Sandra, chez moi, il y a encore aussi du bordel. Hein. J'ai pourtant mis les pleins phares, mais oui. Chez vous aussi, Sylvain.
Oui, ça, c'est endémique.
Donc, en fait, voilà, je voulais témoigner parce que c'est voilà, la séduction, on voit un garçon, une fille, ok, alors il va me plaire. Mais nous, si on n'est pas dans un lieu de rencontre qu'il peut y avoir ou des soirées organisées. Voilà, une personne vous plaît, moi ça m'est arrivé, voilà, je voulais témoigner en vous racontant cette histoire, parce que j'allais dans un magasin acheter des vêtements, et la vendeuse me plaisait beaucoup, et elle avait un petit air, mais bon, un petit air, on aurait pu croire qu'elle était, bon, enfin, un petit air androgyne, vous voyez, et puis, donc, elle me plaisait, alors j'ai acheté plein de vêtements, hein, alors j'en ai acheté 15 blousons, bon, enfin, et pour la voir, tout ça, et puis, en fait, une fois, parce qu'elle m'avait dit, est-ce que vous cirez vos bottes, tout ça, j'ai dit oui, de temps en temps, elle s'était mise à genoux, et elle avait ciré mes bottes, oh là là, j'étais heureuse, c'était beau, hein, enfin, pour moi, et puis, elle m'a dit, ah, ben, je vous donne le cirage, alors bon, voilà, alors... ensuite, une fois j'avais acheté quelque chose, j'étais dans la.
En fait, c'était une bonne commerciale.
Et voilà, bon, et c'était non, son pas... magasin aussi. Et le truc, c'est que, eh oui, mais moi, je voyais pas ça comme ça. Après, j'étais en train d'essayer un haut, et il y avait trois boutons, et elle est rentrée, alors que j'étais pas sortie. Elle dit non, et elle avait ouvert un bouton en haut, mais pas les trois. Moi, je trouvais ça, voilà. Après, elle m'avait dit, bah, écoutez, si vous prenez, voilà, je vous offre une écharpe en cachemire. Bon, c'était, oui, alors, voilà. Mais moi, j'étais là, oh là là. Donc, après, je m'étais fait tout un film. J'ai dit, bon, il faut quand même que je l'appelle, il faut que je sache. Hein. Et là, j'ai quand même, voilà, j'ai fait un pas par rapport à avant. Et donc, je l'appelle. Et voilà, au magasin, je dis, voilà, j'aimerais vous inviter à boire un verre un soir, si on pouvait aller boire un verre ensemble. Et là, ce qu'elle m'a répondu, pardon, voilà, vous pouvez envoyer la pub si vous voulez. Ce qu'elle m'a répondu, j'ai compris que, bon, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Elle m'a dit, pourquoi faire ?
Oui, ça.
Et là, tout s'est effondré. J'ai réfléchi deux secondes, j'ai dit, ben, pour apprendre à vous connaître, voilà. Et puis donc, après, dit, ben oui, alors un soir, ben, je viendrai avec mon copain, bon, et voilà.
Alors là, cata.
Voilà, ça. Bon, ben c'est pas grave, après je suis retournée, mais ce qui m'avait fait du mal aussi, c'est qu'un jour, j'arrive derrière la vitrine, et elle m'avait dû me voir, et elle est partie en courant au fond du magasin. Ça m'a fait de la peine, ça.
Ah oui, parce que vous pensez qu'elle a, du coup, elle avait deviné.
Et oui, parce qu'elle a dû dire à d'autres personnes, dire, tiens, qu'est-ce qu'elle me veut? Elle veut m'inviter à boire un verre. Alors les autres, peut-être, qui ont ouvert les yeux. Et donc voilà. Donc,
mais Sandra, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai notamment, je pense à deux amies femmes qui sont lesbiennes. et dont une qui me dit on repère quand même un peu, il y a des signes quand même.
Mais j'avais cru repérer un petit peu, alors où j'avais progressé.
Mais c'est vrai que dans votre anecdote, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est une personne qui certainement fait très très bien son métier de vendeuse, et vous avez confondu en effet ses qualités professionnelles et un éventuel intérêt pour vous.
Ben en fait, j'en ai parlé à une amie qui aussi vend, et elle m'a dit, mais tu sais, on est toujours dans la séduction, hein, pour vendre. Oui, mais il y avait plus... Enfin, il me semblait qu'il y avait... Bon, c'est moi qui ai voulu mettre ça un peu plus. Ça fait que, bon, ben, c'est difficile aussi d'aborder quelqu'un dans une soirée qui n'est pas organisée, voilà.
Et vous avez raison, moi personnellement ça m'a jamais gêné, je me suis parfois fait draguer par une femme, ça m'a jamais gêné, mais quelqu'un qui n'est pas un peu ouvert, ça elle peut être vraiment désagréable.
Ah oui, complètement.
Mais oui, je parlais de trahison un peu, c'est comme bon un malentendu, mais presque, par exemple, on peut être avoir un bon feeling avec quelqu'un, des liens secrets ensuite on peut être attiré. Bon, moi ça n'est pas arrivé, mais je veux dire, et après l'autre est dans l'amitié et c'est comme si on trahissait un peu la relation si une des deux tombe, vous voyez, amoureuse.
C'est peut-être encore, alors là j'ai mis une hypothèse, hein, j'en ai pas la certitude, mais c'est peut-être encore plus compliqué pour les lesbiennes que pour les gays, parce que l'amitié féminine est presque, je veux dire, il y a plus d'intimité dans une amitié féminine que dans une amitié masculine. Et donc, ouais. Quand l'amitié s'installe, on ne sait pas trop finalement où est-ce qu'on va.
Non, où elle commence, elle se termine, exactement.
Puis ils sont directs, ça traîne pas, parce que nous ça traîne. Hein. On fait plein de films, là, elle a dit ça, là. Tandis que eux, ils se sautent dessus. Hein. J'ai des anecdotes d'amis, ils perdent pas de temps, puis ils rigolent quand moi je raconte, alors voilà, j'aurais dû faire ça, ben pourquoi tu as pas fait ? Voilà, c'est pas la même.
Les hommes entre eux sont très directs. Oui.
Ah oui, et puis entre eux, ils se disent bon, ben qu'est-ce que tu cherches quand ils sont sur un lieu de drague ? Bon, ben voilà, c'est clair. Paf, on n'est pas dans le.
Et c'est là, une fois de plus, où on voit la différence entre un homme et une femme. Deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, il y a une énorme différence.
Ah ouais, c'est sûr. C'est... D'ailleurs, moi, des fois, je me demande, on est tellement différents, les hommes. Les femmes, je me demande pourquoi il faudrait qu'on soit ensemble. Je veux dire, on s'entend tellement bien, nous, entre filles. Je veux dire, voilà. je veux dire, quand on voit les gens, après, quand ils font des repas entre couples et tout, puis les hommes, ils sont tous entre eux, et les femmes entre elles. Voilà, alors vous dites oui, on se complète, hein, c'est ça. Mais parfois, voilà, je me dis, on est tellement différents que.
Moi je trouve que justement nos différences sont très intéressantes, mais je pense que dans un couple de femmes, Sandra, il y a aussi les conflits du quotidien et les petites disputes dues à des choses qui a priori n'auraient pourtant pas d'importance, non ?
Oui, mais c'est pas tant ça, c'est leur façon d'être. Leur façon d'être. Alors, il faut comprendre, alors que monsieur, il faut pas qu'il parle. Alors, voilà, il parle pas, c'est monsieur, c'est un taiseux, donc voilà, il faut accepter. Après.
Vous êtes de parti pris, Sandra.
Ouais. Ouais, mais je fais des efforts, hein, je vous assure.
Sylvain, défendez votre camp.
Je comprends, mais franchement, je
dis. Non, mais il y a des affinités. Pour telle ou telle personne, et c'est peut-être pas si vrai en se disant les hommes ceci, les femmes cela. Et la vraie difficulté, c'est que, en fait, la personne qui a quelque chose à dire puisse le dire. Si vous avez envie de dire quelque chose.
On le dit, mais ils comprennent pas. Il faut leur redire, même une fois vous avez dit, il faut les attraper, là, comme ça, et leur dire, tu as compris, là, la question bien directe. Voilà, je t'ai dit ça, mais même comme ça, des fois, ils comprennent pas.
C'est vrai, il y en a certains, oui. Et dans ce cas-là, il vaut mieux changer de trottoir, comme on dit, ou on peut changer de direction. Mais si jamais vous commencez à voir qu'il y a une ouverture avec quelqu'un, c'est pas le moment d'abandonner. C'est la personne la plus motivée, et ça peut être une femme, qui doit agir.
La femme, je parle dans une soirée, voilà, avec une personne, moi elle me plaît par exemple, voilà, elle sait pas, elle me parle. Et moi, elle sait pas. Alors, je veux dire, je vais parler, je vais la faire rire, et puis, mais elle voit pas ça comme ça, vous voyez ?
Eh oui, c'est pas simple, Sandra. Mais en tout cas, votre témoignage était vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on aborde une toute autre façon de séduire.
De vivre.
Faut déjà savoir si on a la moindre chance ou pas. Merci beaucoup, Sandra.
14h, 16h.
Bien sûr, continuez-vous aussi.
Brigitte
Lahaye. Racontez vos anecdotes.
Sud Radio.
0820. Alors, Sylvain Mimoun, pourquoi les canards baissent beaucoup quand il fait chaud?
Pourquoi, Sylvain Mimoun, les canards baissent beaucoup quand il fait chaud?
Vous donnerez la réponse, vous verrez, c'est évident. Alors, les canards baissent beaucoup quand il fait chaud parce qu'ils se tapent une canette. Tout simplement. Voilà. Alors, Sylvain Mimoun, on va peut-être revenir un peu sur votre livre parce que c'est quand même intéressant et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup d'hommes pour cet été, notamment s'ils ont envie d'avoir des aventures. Ça s'appelle « Restons fermes, après le Viagra, les nouvelles solutions scientifiques pour faire face à ces problèmes d'érection ». C'est écrit avec Pascal Orfèvre par Aquini et c'est aux éditions Erol. Et donc, dans ce livre, vous expliquez qu'il y a maintenant du laser qui permet donc de, entre guillemets, hein, de refabriquer une meilleure verge pour qu'elle retrouve toute sa vigueur.
Ce sont des ondes de choc, en fait, et non pas du laser.
Ah, pardon.
Mais les ondes de choc permettent, en effet, de recréer des vaisseaux au niveau des corps caverneux, c'est-à-dire au niveau dans la verge, et le fait qu'il y ait plus de vaisseaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une meilleure circulation sanguine locale, et de ce fait-là, les érections peuvent être réparées.
Combien de temps que c'est au point, ce système d'onde
alors,
de choc ?
Alors, ça existe depuis, on va dire, 8 ans à peu près.
Oui, donc on a quand même un peu de recul.
Oui, il y a du recul et surtout, c'est un peu assez international. Il y a des essais un peu partout. Et globalement, c'est d'ailleurs un urologue israélien qui a mis au point les premières machines qui marchaient bien. Il y a plusieurs labos qui fabriquent des machines pour créer des ondes de choc. Elles se valent pas toutes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir la machine créée par les premiers labos qui avaient créé cette solution-là. Et incontestablement, alors ça marche pas à tous les coups, malheureusement, même si dans les statistiques on dit que c'est 70% de résultats.
On sait pourquoi il y a 30% d'hommes avec qui ça ne fonctionne pas ?
D'abord parce que tous les problèmes d'érection ne sont pas que vasculaires.
Oui,
donc s'il y a un problème vasculaire, c'est plus facile. La deuxième chose, c'est que...
Comment, excusez-moi, mais je pose toutes les questions que pourrait se poser un homme face à vous. On peut faire, je sais pas, une IRL pour savoir si c'est dû à des problèmes vasculaires. Il y a un moyen de connaître un Doppler. Enfin,
on fait un Doppler plutôt, mais globalement, ce qui aboutit aujourd'hui, c'est que on se dit, dans presque tous les cas, ça vaut le coup de tenter de voir si cette machine entre guillemets miraculeuse peut avoir une action chez lui.
D'accord. Donc c'est valable si on a plutôt des problèmes d'ordre vasculaire, d'accord ? Et est-ce que c'est, une fois que ça marche, c'est définitif ou il faut refaire le traitement ?
Si on arrive, il y a 12 séances hein, normalement. Le protocole classique, c'est 12 séances. Et quand on a fait les 12 séances, il y a une amélioration de l'érection. Et si c'est une vraie amélioration, au point qu'il n'y en ait plus besoin d'autre chose en même temps que les ondes de choc, eh ben c'est qu'on a été du côté de la guérison. Mais on considère que c'est guéri quand réellement, depuis longtemps, il n'utilise ni ondes de choc, ni quoi que ce soit.
C'est ça.
Au départ, on utilise assez souvent un IP2-5, c'est-à-dire un médicament style Viagra, Cialis, etc., pour faciliter la circulation locale. Et à partir du moment où on utilise ça, on fait les ondes de choc en même temps. Et beaucoup de ces patients-là disent, par rapport aux médicaments que je prenais avant, là, je me rends compte que le matin, j'ai des érections, qu'à tel moment, j'ai des érections, etc. Et comme on dit pour... La fonction crée l'organe. Plus l'organe fonctionne, mieux il fonctionne.
Bien sûr, bien sûr. Et donc ça s'adresse à n'importe quel homme, quel que soit son âge, quelle que soit sa problématique. C'est
Voilà, ça peut être... Ça... Alors, classiquement, c'est plus utilisé chez les vasculaires. Les vasculaires, on peut les repérer par des examens Doppler, par d'autres examens. Mais le plus important, c'est que l'homme soit motivé à vouloir résoudre les choses.
Ah bah c'est clair, oui.
Et s'il est motivé, il peut... l'avantage, c'est qu'il se traite seul. Enfin, il peut se traiter seul. Il n'a pas besoin d'être opéré, etc. C'est quelque chose qui va... C'est une machine qui peut...
C'est pas douloureux, je crois. Hein.
C'est indolore. À la différence, les ondes de choc ont été utilisées dans les tendinites, par exemple, et les personnes qui ont utilisé ça, hommes ou femmes, trouvent que c'est hyper douloureux d'utiliser ça pour les tendinites, alors que dans les ondes de choc pour l'érection, c'est indolore.
Très bien, voilà les précisions. Ce livre s'appelle « Restons fermes » si vous voulez avoir plus de détails. On retrouve Jean-Luc maintenant. Bonjour Jean-Luc. Excusez-moi, je vous ai fait un petit peu patienter, mais il était important de donner toutes ces précisions.
Bonjour Brigitte, bonjour docteur.
Bonjour.
Donc, vous êtes en pleine séparation en ce moment, donc, hein, c'est ça Jean-Luc?
Oui, ça fait un an là, que la crise est arrivée. Je vous avais déjà eu, enfin, j'ai déjà passé à l'antenne il y a un an, par rapport à mon histoire, qui est un peu compliquée. Mais bon, par rapport à votre thème là, de la séduction, moi je suis quelqu'un de... J'ai toujours été extrêmement timide dans son avis. J'ai rencontré mon épouse à 19 ans, c'était ma première aventure, et elle était ma femme depuis 1980. Enfin, on s'est rencontrés en 83, quoi.
Oui.
Il y a 6-7 ans, on est rentré dans l'aventure du libertinage, de commun accord tous les deux pour s'amuser. Pour,
bien hein, sûr.
Et puis moi, je me suis... Moi qui étais vraiment pas sûr de moi et très timide, je me suis au fil des rencontres, j'ai un peu pris confiance en moi. Il y a des femmes, des partenaires qui m'ont donné confiance.
Et donc c'est le libertinage qui vous a donné confiance en vous?
Oui.
Oui. Bah, c'est...
Je pensais pas que je pouvais plaire et que bon, enfin voilà. Et le problème, c'est que j'ai donc c'est la porte ouverte à des histoires. C'est deux femmes qui sont tombées amoureuses de moi, enfin successivement, hein, sur une période de 3 ans. Moi, donc je vous ai appelé l'an passé parce que mon épouse avait su pour ces deux histoires. Hein, et on avait galéré pendant un an par rapport à... Elle m'avait redonné une chance. Et donc je vous avais appelé par rapport à sa libido, enfin essayer de la reconquérir, de lui redonner confiance. Et puis malheureusement, un an après, là, donc on avait quand même continué un peu le libertinage pour qu'elle retrouve confiance. On faisait plutôt des trios avec un homme.
Ça a marché, ça
revenait bien, ça refonctionnait très bien. Puis il y a eu un autre contact par site d'un couple qu'on n'a pas rencontré, mais la personne est rapidement tombée amoureuse même sans me rencontrer, donc ça m'a complètement ébranlé. Une nouvelle fois, on s'est rencontrés et puis ça va faire 18 mois que ça dure notre histoire, et ça fait un an qu'on est séparés avec mon épouse.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes avec une femme qui vous libertine, donc qui vous a dragué, c'est ça?
Oui, puis oui, ah oui, qui m'a valorisé en chat, enfin qui est tombée amoureuse,
Mais si j'ai bien compris, elle est pas libre, c'est ça?
Elle n'était pas libre. Maintenant, elle est libre. Bon, il y a pas mal de distance qui nous sépare. C'est pas simple. Elle a des enfants qui sont jeunes. Donc, ça remet tout en question. Quoi.
Et vous êtes amoureux d'elle?
Oui, bien sûr. Sinon, j'aurais pas laissé entamer. Mon épouse a plusieurs fois m'a dit: tu l'appelles devant moi, tu lui dis que c'est fini. J'ai jamais réussi à faire ça.
D'accord, mais voilà. C'est donc un peu à cause de tout ça que vous vous êtes finalement décidé de vous séparer de votre épouse.
Disons que j'étais comme beaucoup d'hommes à assez lâche et souvent silencieux dans ces instants de crise.
C'est mon épouse qui
a toujours pris les devants par rapport à
Oui, je sais pas si c'est une question de lâcheté. Je pense que c'est aussi une question de, peut-être, je dirais, de devoir, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais si j'ai bien compris, votre femme, c'est votre première femme. Vous vous êtes connue quand vous aviez 19 ans. Il y a toute une histoire. Ouais. On peut pas comme ça, d'un seul coup, lâcher.
Balayer tout ça.
Non, je pense que je dirais pas que c'est une question de lâcheté. En tout cas, ce qu'on remarque bien dans votre témoignage, et puis on va vous redonner la parole dans un instant, Jean-Luc, restez avec nous. Ce qu'on remarque bien, c'est que le libertinage, dans votre histoire, le libertinage vous a, vous, énormément fait évoluer, fait prendre confiance en vous. Et votre femme, quelque part, elle est restée un petit peu, semble-t-il, sur sa réserve. Hein. Et c'est là, à ce moment-là, où en effet, il y a une grande différence qui s'installe dans le couple et ça devient difficile. Parce qu'a priori, un couple de libertins peut avoir des expériences autres. On vous retrouve dans un instant, Jean-Luc, restez avec nous.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Sylvain Mimoun est avec nous, gynécologue, andrologue. On parle de la séduction. Donc Jean-Luc, est-ce qu'il y a de la séduction entre libertins? C'est une drague assez ouverte, non, j'imagine, Jean-Luc?
Pour qu'il y ait un vrai échange, il faut une certaine drague, il faut une attirance, il faut physique, et puis au niveau de la discussion, je pense qu'il y a différents niveaux. Il y en a qui ont pas besoin de tout ça, qui peuvent échanger beaucoup plus facilement que d'autres. Pour ma part, je suis mon épouse aussi, on est assez cérébraux et il fallait quand même des personnes qui nous correspondent. Donc il y a une drague qui s'établit autour d'une table, autour d'un verre, et puis voilà, puis après.
Et donc là, vous avez envie de vivre avec cette femme, j'imagine?
Oui, par la force des choses, j'ai laissé faire j'ai pas beaucoup pris de décision par moi-même, j'ai laissé faire des choses, et puis là, je suis face à un mur où mon épouse ne veut plus. Enfin, c'est compliqué. Je suis l'homme de sa vie, mais j'ai tellement.
Mais ça a l'air compliqué dans votre tête. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, indépendamment de ce que voudraient ces deux femmes? Vous le savez, vous, au fond?
Non. Pas vraiment. Enfin,
est-ce que vous savez ce que vous souhaitez?
Ce que je souhaiterais, c'est rendre heureuses les deux, quelle que soit la situation.
Mais voyez, Jean-Luc, votre réponse est assez intéressante et elle est fréquente, et c'est pas la bonne réponse, parce que finalement vous voulez rendre les autres heureuses. Mais vous, qu'est-ce qui serait important pour vous?
Égoïsme partagé. Pensez à vous et voyez comment vous pouvez rendre heureux les autres.
Parce que si vous pensez pas d'abord par vous-même, forcément vous n'êtes pas clair avec vous-même. Ça veut dire qu'il y a peut-être de la culpabilité, un sens du devoir, un sens de loyauté. Alors, ce sont des valeurs respectables, hein, bien sûr. Mais à un moment donné, ce qui ne veut pas dire qu'on va aller dans la direction qu'on se choisit, mais à un moment donné, il faut être réellement clair avec ses propres désirs, ses propres besoins. Et après, en fonction évidemment de ses valeurs, on va trouver le juste équilibre entre son propre désir et ses valeurs. Mais si vous restez trop sur vos valeurs, ça fausse un peu. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah bah oui, c'est complètement. Je fais souffrir mon épouse qui espère, et puis mon...
Oui, mais voyez, vous reparlez...
Qui est déçue de que je ne sois pas...
D'accord, mais là, vous reparlez de votre épouse et de cette femme. Donc moi, je voudrais que vous parliez de vous. Donc... Vous voyez, vous bloquez. Si je vous demande de parler de vous, vous bloquez. Oui, alors après, absolument. Vous n'êtes pas obligé de me répondre et vous pouvez faire ce travail tout seul ou pourquoi pas avec un psy. Mais là, je crois que c'est vraiment important que vous reveniez à vous-même. Oui. À votre propre désir. Vous partiriez sur une île déserte avec laquelle vous partiriez. Oh, oh, oh.
avec celle qui arrêterait de, qui me dirait pas, qui me jugerait pas pour tout ce que j'ai fait, donc avec la nouvelle, avec la, celle, ben voilà, ma dernière relation.
Donc vous avez une réponse là, peut-être. Hein, peut-être.
Parce que mon épouse, c'est que des.
Donc, ce qui vous fait vous tirailler et vous sentir pas bien, c'est peut-être la culpabilité, le sens du devoir qui fait que, bon, et l'affection évidemment que vous avez pour votre épouse et tout le passé que vous avez vécu avec elle. Mais peut-être que votre vie, elle est maintenant vraiment ailleurs, c'est-à-dire avec cette nouvelle rencontre.
Oui, c'est ce que je pense au fond de moi, mais j'ai du mal à me rendre compte et à vraiment l'accepter. Enfin,
mais puisque vous réalisez que c'est ça, il faut maintenant que vous analysiez mieux. Qu'est-ce qui vous retient encore avec votre épouse pour arriver tout doucement à faire la paix avec ça, peut-être faire un acte de pardon symbolique, voilà, c'est...
Ben, mon épouse m'a demandé que je lui dise clairement que je l'aime plus, que c'est fini. J'ai du mal à lui dire que je l'aime plus, et malgré le fait que l'histoire elle est finie.
Non, mais vous pouvez lui dire je t'aime comme une amie avec qui j'ai de très très bons souvenirs, mais je ne t'aime plus charnellement. Vous pouvez trouver toujours une formule qui soit jolie et qui ne soit pas blessante.
Blessante. Mmh. D'accord.
Vous savez, j'en parle souvent. Hein, je dis souvent que l'amour, c'est trois piliers. Hein, et il faut vraiment les trois pour qu'une histoire marche bien. C'est bien sûr la passion charnelle, c'est l'intimité tendre, et puis c'est l'engagement amitié. Hein, et s'il n'y a pas les trois, ben, quelque part, le couple n'est plus un couple réellement solide. Et visiblement, avec votre femme, il n'y a plus la passion. Elle est ailleurs, cette passion.
Oui. Enfin, oui, ça a été faussé, ça a été volé, donc elle est passée sur une autre personne, dans une autre histoire.
Oui, mais vous avez eu une vie formidable, il restera quelque chose, vous serez construit ensemble, et puis à un moment donné, eh bien, vous avez une passion pour une autre femme, et puis alors soyez sûr quand même qu'avec cette autre femme, il y a de l'intimité et de l'engagement, bien sûr. Mais visiblement, oui, puisqu'elle n'attend que ça pour
oui, elle a clarifié les choses de son côté et elle attend que vraiment d'être sûre de moi pour aller encore plus loin.
Eh bien, écoutez, soyez plus clair avec vous-même et vous verrez, ça sera plus facile d'avancer. Merci beaucoup en
D'accord.
tout cas,
Jean-Luc. D'accord, je vous remercie tous les deux. Merci.
Au revoir.
Bonne fin d'émission. Au revoir.
Merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, toujours avec vous, bien sûr, 0826-300-300.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lay, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors, le Love Conseil d'aujourd'hui, Sylvain Mimoun, c'est les hommes en manque de sexe. Vous êtes d'accord, hein? C'est oui, hein, la réponse.
Oui, c'est clair.
Oui, et c'est encore oui. Hein.
Oui.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on entend très très souvent. Je l'entends presque tous les jours. Et je trouve que peut-être que les choses sont un tout petit peu moins caricaturales. Je crois que les hommes surtout se plaignent du manque de désir de leurs femmes. Vous êtes d'accord avec ça?
Exactement.
En fait, ils ont envie de sentir que leur partenaire les désire, parce que ça signifie pour eux qu'elle les aime. Hein. C'est un petit peu la différence quand un homme désire une femme, elle ne croit pas que c'est parce qu'il l'aime, alors qu'une femme, un homme a besoin de sentir que sa femme le désire encore, parce que pour lui, c'est une preuve d'amour.
C'est qu'il lui plaît toujours et qu'elle a envie de lui.
En fait, ça les rassure.
Ça les rassure, ouais. Exactement.
Alors, pourquoi les femmes ne comprennent pas ça, puisque, bon, quand même, elles aiment bien aussi sentir que leur partenaire les désire. Je crois que c'est tout simplement, et c'est peut-être ça l'intérêt de mon Love Conseil, parce que lorsqu'une femme parle de son désir pour son homme, tout de suite, il est prêt. Il est prêt à avoir un rapport sexuel, et c'est pas systématique pour nous les femmes. Et c'est peut-être à ça dont les hommes doivent faire attention, parce que si une femme vous dit j'aime bien faire l'amour avec toi, j'ai envie de toi, etc., laissez-la s'exprimer sans systématiquement démarrer au quart de tour à chaque fois, parce que sinon ne vous étonnez pas ensuite que votre femme ne vous dise plus qu'elle vous désire.
Si dès qu'elle lui dit « j'ai envie de toi », il est en érection, ça la fait débander, elle.
Voilà. On aime bien éventuellement dire qu'on désire notre homme, mais ça ne veut pas systématiquement dire qu'on veut un rapport sexuel.
Un rapport sexuel tout de suite.
Voilà. C'est la différence fondamentale entre l'homme et la femme. Bonjour Corinne.
Bonjour, bonjour Brigitte, bonjour à vous deux. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, puis vous le dites depuis tant d'années que je finis moi aussi par me dire écoute un peu ce qu'il a dans lui et pas toujours à premier abord à être un peu braqué, à se dire ben, si il te désire, c'est parce que on est peut-être un peu trop dans notre tête des fois, et en fait il faut aussi accepter que voilà, de temps en temps il y a des envies le matin, le soir, à des moments où nous on n'est pas prêts justement, et voilà, et en fait ça se passe bien en fait quand on lâche. Moi j'ai un peu de mal à lâcher parce que je suis un peu dans le voilà, dans la maîtrise, et c'est un peu, mais je pense que si on vous écoutait un peu plus, je pense qu'on on essaie de se mettre absolument un peu à leur place, et des fois ils se mettent pas assez à la nôtre, ça c'est sûr, mais voilà.
Mais nous non plus. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est là où je crois, et c'est vrai qu'actuellement, surtout avec les questions de genre, hein, Sylvain Mimoun, on a tendance de plus en plus à laisser croire qu'on est pareil. Mais non, il y a des différences fondamentales, et si on les comprend mieux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas de temps en temps être blessé ou même se sentir agressé, mais on relativisera plus, je pense.
Exactement.
Oui, puis bon, enfin, nous, ça fait 37 ans, donc il y a quand même déjà un petit moment. Ça se passe
ça
bien, mais
tu vois, vous parliez.
Oui,
ouais, bravo.
il y a aussi le phénomène de la séduction qui doit toujours être là, parce que quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut toujours se séduire et puis apporter un peu des choses, un petit peu du piment et un petit peu. Alors, c'est pas simple.
Non, mais votre témoignage est important parce que c'est vrai que la séduction, puisque c'est le thème un peu d'aujourd'hui, la séduction dans un couple au long cours, elle est essentielle et malheureusement, elle est souvent un peu écornée.
Exactement.
Oui. Oui, donc c'est vrai que si Sylvain a des solutions aussi pour que... Parce que c'est vrai que dans le couple qui vieillit un petit peu ensemble, il s'installe un peu des habitudes, il s'installe des fois, ben oui, c'est acquis. Alors même si on traverse des périodes dans la vie, voilà, il y a des débats, parce que forcément c'est pas un fleuve tranquille, ça c'est sûr, il y a des enfants, puis les enfants partent, et puis eux aussi, on observe aussi, parce que les codes changent aussi, parce que moi je me rappelle que moi j'étais vraiment on ne se quittait pas quand on était jeune. Aujourd'hui, les jeunes filles maîtrisent aussi beaucoup, c'est-à-dire que je trouve les garçons, enfin moi j'ai des gendres, et je trouve qu'ils sont quand même sympas, ils font quand même, moi je trouve, beaucoup d'efforts, ils sont assez doux. Aujourd'hui, moi c'était plus l'époque un peu des plus macho, on va dire, parce qu'on avait nos pères qui étaient déjà très macho. On va vers quelque chose de plus doux vers les garçons. Les filles prennent un peu le pouvoir, je trouve. Enfin, moi, je peux en parler parce que j'ai des filles qui sont comme ça. Et malgré tout, elles veulent quand même être séduites. Donc, elles veulent quand même tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, c'est le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, avec le sourire en plus.
C'est ça.
Non, c'est vrai.
Je sais pas. Je pense que la femme fondamentalement n'a pas tant changé que ça. C'est-à-dire qu'elle a toujours envie d'être séduite. Elle a toujours envie qu'on lui offre éventuellement des fleurs ou un petit cadeau, etc. Sauf qu'elle est devenue un peu plus indépendante grâce notamment au fait qu'elle travaille et qu'elle a son argent. Donc ça peut déstabiliser un peu les hommes, je crois.
Oui, surtout si elle a un poste, s'il travaille dans la même entreprise ou qu'elle ait un salaire plus élevé que le sien, etc., ça interfère très négativement. Il y a beaucoup de femmes qui gagnaient beaucoup plus d'argent que le mari et qui ont pris un autre boulot pour en gagner moins. Ce qui est quand même très particulier. Quoi.
C'est vrai, vous avez...
Ah oui, j'en connais des très bons exemples. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Ce que je dis, c'est que ça interfère notablement. Quoi.
Alors après, moi, je ne sais pas si c'est culturel ou inné, hein, ou acquis ou inné, toujours la même question. Mais toujours est-il que je constate que c'est encore un petit peu comme ça aujourd'hui. Donc vous avez raison, les hommes sont devenus, les hommes se sont déjà pas mal adaptés, je trouve. Hein, vous parlez de vos gendres, mais on voit bien, ils sont plus aptes à s'occuper du foyer, ils sont plus aptes à laisser la femme justement être plus indépendante. Donc les hommes se sont un peu adaptés, mais il y a encore beaucoup de compréhension à faire, et c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'on a la possibilité en effet de se séparer très facilement.
Exactement, mais je crois que les femmes qui ont un peu d'expérience de vie, et je pense à certaines entre guillemets belles-mères qui avaient bien vécu leur vie elles, et qui donnaient des conseils à leurs filles, en leur disant, mais donne-lui la sensation que c'est lui qui dirige. Parce que ça ne va pas plus loin que ça.
Oui, il faut que vous disiez, Corinne, à vos filles qu'elles doivent les admirer, leur mari, et leur faire croire...
Il
ne
faut pas qu'elles soient en compétition avec eux, sinon c'est perdu pour les deux.
Ouais, c'est perdant c'est des pour fois les deux. C'est un peu ce que je ressens, il y a des fois un peu de la compétition, alors que moi je leur prône la complémentarité. Et je leur dis que c'est comme ça qu'on avance dans un couple, surtout si on a des métiers différents, mais bon, nous, on a la chance d'avoir des métiers un peu complémentaires aussi. Mais dans un couple, il faut absolument que ce soit, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais complémentarité, pour moi, c'est comme ça que ça dure aussi, quoi. C'est, on peut pas, enfin, moi, les hommes qui se mettent à repasser, j'ai un peu de mal avec ça. Peut-être, je suis pas la génération, mais je trouve que bon, il y a, voilà. Oui, les enfants, oui, garder des enfants, s'occuper des enfants, oui. Ça m'a même un peu manqué des fois, quoi, que je ne laissais pas trop ma place des fois, donc je reconnais. Mais je pense que, ouais, c'est
mais vous venez de dire quelque chose d'essentiel. Hein. Moi, je sais que beaucoup d'hommes me disent, ok, ma femme veut que je l'aide, mais dès que je fais quelque chose, de toute façon, je me fais critiquer parce que je ne l'ai pas fait aussi bien qu'elle ne l'aurait fait. Alors,
Ça, je crois qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui le disent peut-être moins que nous.
Je vous parle de femmes relativement jeunes. Hein,
Oui.
Je pense que c'est assez compliqué parce qu'en effet, il y a une. Je crois que la femme. Alors, l'homme essaye de s'adapter, et j'ai toujours pensé que l'homme s'adaptait beaucoup mieux que la femme dans un couple.
Et parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui.
C'est
normalement.
Ça. Oui. Mais la femme, c'est toujours la fameuse question du phallus dont parlent beaucoup les psys. Hein. Je trouve que la femme, pour l'instant, est encore dans une sorte de lutte de pouvoir, oui, qui nuit en effet à la complémentarité ou à l'harmonie. Il faudrait encore s'entendre sur ce qu'on appelle complémentarité. Hein.
Oui, ben voilà. Pour moi, oui, la complémentarité, ben c'est oui, voilà, c'est chacun le met. C'est sûr que le curseur, on le met où on veut, où on peut, je sais pas, mais
ouais. Les couples qui marchent bien, c'est les couples où chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, si on sait pas qui doit passer l'aspirateur, ça va faire une lutte de pouvoir.
Et si chacun arrive à penser avec l'égoïsme partagé, il peut savoir si ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire va lui faire plaisir à lui ou à elle. Et à partir du moment où il y a ce plaisir-là, automatiquement, ça met de l'huile dans le rouage et ça arrondit les angles.
Oui, parce que je pense que c'est de vous l'égoïsme partagé. Parce que
exactement.
J'ai souvent entendu, mon mari en a fait une phrase culte.
Trente mieux.
Et il me dit souvent l'égoïsme partagé. Il en est très très content de ce.
Merci, vous le remercierez de ma part.
Non, mais c'est vrai que c'est joli ça, et ça parle à tout le monde. Mais pour ça, faut-il encore communiquer? C'est-à-dire que si dans un couple on dit pas ce qu'on aime vraiment pas faire, parce que parfois on s'oblige à faire quelque chose qu'on aime pas faire parce qu'on ne veut pas imposer ça à l'autre, qui peut-être lui s'en fout et le ferait volontiers. Voilà, il y a des hommes qui détestent faire la vaisselle, il y a des femmes qui détestent faire la vaisselle. S'il y en a un des deux...
Tout à fait.
C'est souvent un manque de communication qui fait que ça crée des luttes de pouvoir idiotes.
Exactement.
Tout à fait. Et peut-être que nos jeunes, peut-être communiquent, peut-être en fait en privé, peut-être que mieux que ce que nous, peut-être ce que ma génération, moi je ne vis pas dans l'intimité, donc peut-être qu'effectivement ils communiquent mieux, il n'y a pas de pouvoir, peut-être ça s'équilibre et peut-être qu'ils se trouvent raison et voilà, et j'espère, parce que c'est comme ça qu'on va avancer et.
Il faudrait, mais d'après les dernières enquêtes, c'est encore les femmes qui se retrouvent avec la majorité des tâches ménagères à faire.
Oui, oui.
Et à heure de travail égale, c'est une injustice.
Oui, oui. Oui, moi j'ai la chance de pouvoir faire plein de tâches. Je travaille un petit peu sur mon lieu de travail, donc c'est plus facile, certes c'est plus facile. Mais quand on rentre à 20h tous les deux, ou 19h,
voilà, c'est forcément toujours la femme qui doit faire les courses et faire le repas, c'est compliqué. Après, peut-être que l'homme, lui, est en train de construire la maison, tout dépend. Oui. Hein, après,
bien sûr, voilà, tout dépend de la vie de chacun et de ce qu'on en fait, et de ce qu'on vers quoi on tend. Moi, j'ai plutôt un mari bâtisseur, c'est sûr que le gratin, c'est pas lui qui va le faire, voilà.
Oui, mais si en échange, il s'occupe de réparer, de bricoler,
voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de souci.
Nous, on est dans ce partage-là.
Donc il y a complémentarité.
Ils sont beaucoup plus dans l'intellect, et beaucoup plus sur les ordinateurs, et beaucoup plus dans la réflexion de comment on articule le foyer avec l'argent de tout du mois, etc. Et chacun, il faut que chacun soit heureux, en fait, je pense aussi. En fait, c'est une question de bon sens.
Mais c'est aussi une question de communication. Moi, j'avais fait un love conseil d'ailleurs un jour, je disais il faudrait régler le couple comme on règle les différents ministères. Et au fond, ça serait simple. Comment on règle le problème de l'argent, comment on règle le problème des tâches ménagères, comment on règle le problème des enfants, enfin je sais pas, chaque chose devrait être...
Il faut déjà pouvoir communiquer, c'est-à-dire discuter un minimum ensemble pour pouvoir savoir ce que l'autre souhaite, ce que soi-même on est prêt à entendre. Et comment on va pouvoir partager un peu ces infos-là, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Oui, parce qu'après, on termine sa vie avec des séparations, alors que quelquefois, on aurait parlé, on aurait fait de la communication non violente, comme on l'entend aujourd'hui, on serait allé se faire aider, et on n'en serait pas là, parce que souvent, malheureusement, on reproduit les schémas, on reste sur des bases, et puis on reproduit, et les personnes qui arrivent derrière, on n'est pas plus heureux avec. Alors du coup, je trouve qu'il vaut mieux... Bon, voilà, ça c'est mon avis de femme qui est...
Parce que vous avez visiblement quand même un très bon compagnon, donc bien sûr, gardez-le. Mais je pense, vous avez l'air d'être épanoui, vous n'avez pas l'air aigri, je crois que...
Oui, mais on met chacun un peu de l'eau dans notre vin, quoi.
C'est ça.
Mais c'est la vie. Voilà. La vie à deux, c'est ça, c'est comment mettre de l'eau dans son vin pour l'autre, puisqu'on le fait par égoïsme partagé.
Voilà, c'est ça.
Vous avez le clone de votre mari en face, Corinne.
Bien.
Merci en tout cas, Corinne,
au revoir.
De votre
merci
témoignage.
Merci à vous deux.
Merci.
Bon après-midi, au revoir.
Alors, ce n'est pas un jouet intime qu'on a testé aujourd'hui, mais c'est un kinky challenge. Et c'est Sozik qui est avec nous, qui l'a reçu. Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Sylvain Mimoun qui est avec nous.
Sylvain Mimoun, voilà, que j'écoute très souvent d'ailleurs, mais là je suis un petit peu émue. Donc oui, c'est une sorte de chéquier, c'est un jeu, et comme disait Corinne, votre auditrice précédente, il y a besoin de séduction, de piment dans un couple, alors avec ça, je pense qu'elle pourrait l'offrir à ses filles. Peut-être un petit cadeau discret, comme ça ces gendres pourraient en profiter aussi. Car c'est du plaisir, c'est excitant, c'est drôle. Donc t'as bien joué avec mon ami, avec ce petit chéquier.
Oui, on peut prendre soit au hasard, soit choisir celui qu'on a envie. Hein.
Oui, on peut le cacher. Nous, on a fait des petits jeux comme ça. J'aime bien que j'avais caché dans la salle de bain, un autre. Et du coup, hop, l'autre trouve le chèque dans la salle de bain. C'était. Offre-moi une séance de sexe express. Alors, hop, vite fait, dans la salle de bain. On a fait un petit, voilà, petite promenade érotique, c'était très sympa. Ensuite, il y a par exemple « Dîne sur mon corps et savoure ma peau en même temps ». Voilà. Alors ça, c'est, oui. Moi, c'est moi qui ai savouré sur son corps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on n'a pas eu le temps de tout tester, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et,
bon, ça va, oui, le week-end. Il vous reste encore quelques semaines. Hein,
tout à fait. Le seul petit inconvénient que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de règles du jeu. Donc, en fait, on invente ses règles. Hein, on fait comme on veut. Hein.
Oui, voilà. On peut faire comme on veut.
En fait, vous êtes libre, quoi.
On parlait de tâches ménagères avec la précédente auditrice, ben là on peut se faire une tâche ménagère tout en faisant autre chose ou passer un coup de fil. Il y en a un autre, c'est...
Oui, je crois qu'il y a faire une fellation ou un cuni tout en faisant autre chose. Alors que je suis occupée, oui, c'est ça.
Oui, alors ça c'était super. Parce que
enfin,
moi, je suis...
en voiture, c'est pas super, hein, je déconseille.
Ah non, pas en voiture.
C'est pourtant ce qui est marqué. Hein.
Moi je suis fan de Koh-Lanta, donc je me suis fait mon Koh-Lanta. Avec un petit cuni, c'était très chouette.
Ah, alors, qu'est-ce qu'il a emporté?
Bah, c'est un peu loupé l'émission, mais bon, c'est pas grave.
Ah bah, tant mieux, bravo monsieur.
Oui, il est très fort. Il est très fort. Après, il y a le petit jeu, donc organise-moi un jeu classique, infirmière, secrétaire, président, voilà.
Et puis, vous avez trois chéquiers vierges. Hein, vous pouvez écrire ce que vous voulez.
Oui, on peut inventer ces petits fantasmes ou autre chose. Voilà, on peut les inventer. Voilà, attache-moi sur le lit, stimule-moi jusqu'à l'extase. Alors, ça, c'était bien aussi. Parce que même si c'est des choses qu'on peut faire, là, c'est encore plus drôle parce qu'on n'y attend pas. Quoi. Donc,
C'est vrai qu'on peut soit le choisir, soit tirer au sort, suivant la manière dont on a envie de jouer avec. Oh, c'est mignon, c'est sympathique. Hein.
Oui, on organise ces petites règles du jeu comme on veut. Donc, c'est vrai qu'on a bien rigolé, c'était très drôle. Et puis, je pense qu'on va s'en resservir encore.
Bah écoutez, vous pouvez l'user jusqu'à la corde, absolument.
Oui.
Alors ça s'appelle Kinky Challenge, c'est sur le site bien sûr neoplaisir.com, et puis vous me donnez la note que vous donnez à ce carnet alors.
Moi je mets un 9, hein, 9 sur 10.
D'accord, très bien.
Voilà.
Et Koh-Lanta, vous mettez quelle note?
pareil, 9.
D'accord, ok.
Voilà.
Eh ben merci en tout cas de l'avoir testé pour nous, ce Kinky Challenge. Merci beaucoup, Solzik. On se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio 0826-300-300. À tout de suite.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Sylvain Mimoun est avec nous. Vous êtes gynécologue, andrologue et auteur de Restons fermes, un livre qui évoque donc justement l'érection pour les hommes, enfin en tout cas ou le manque d'érection. On continue avec Philippe qui va nous parler de séduction. Bonjour Philippe, merci les amis.
Oui, bonjour Brigitte. C'est pour moi un plaisir réel d'échanger avec vous.
Ben merci.
Donc je salue le docteur Mimoun.
Bonjour.
Donc oui, je me permettais de vous appeler. C'est pas obligatoirement sur ce thème-là que je suis le plus concerné, on va dire. Mais pourquoi je parlais de séduction, c'est tout simplement quand on s'est rencontré avec mon épouse, c'était en boîte de nuit. Moi, j'étais quand même fortement grisé. Et donc un ami est venu me chercher au bar et m'a dit il y a des filles sur la piste. Au lieu de boire, viens avec nous. Et puis voilà, de cet enchaînement, on s'est connus et on s'est jamais quittés. Et donc ça date d'il y a 28 ans maintenant.
Ah oui, oui, oui. Et donc si votre ami vous avait pas envoyé sur la piste de danse, vous n'auriez pas peut-être pas rencontré votre femme.
Exactement, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc c'est vrai que quand j'entends certaines de vos émissions, parce que je suis quand même un adepte, quand je peux, c'est quand je roule. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas écouté l'émission, je suis désolé, parce que j'étais à la maison et je travaillais.
C'est pas grave.
C'est vrai que j'entends beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, comme beaucoup d'auditeurs le disent, au sein de votre émission. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc oui, c'est sur la vision du couple. Cette séduction, oui, certes, elle est nécessaire, je pense, au départ. Mais je pense que pour que les couples durent, cette séduction ne doit pas durer. Parce qu'en fait, quand on se séduit, on se ment. Pour moi, hein, quelque part.
Ah bon, vous voyez la séduction comme un
mensonge? Oui, comme un mensonge, pas comme une...
C'est-à-dire
que quand on séduit, on essaie de montrer la meilleure partie de nous-mêmes, on ne va pas montrer nos défauts de suite. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a un certain mensonge. On ne se montre pas tel que l'on est. Et la difficulté, effectivement, je pense, de l'être aujourd'hui, c'est de savoir qui on est. Mais bon, ça, je pense que vous l'aviez déjà... Ou quoi, j'ai entendu déjà lors de l'émission d'avoir abordé ça à plusieurs reprises. Et,
oui, et sauf que là, vous venez de rencontrer une personne, donc c'est logique que vous, comme l'autre, essaye de montrer la meilleure partie d'elle-même.
On est tout à fait d'accord. Je parlais pas
et de ça ne veut pas dire que ça soit faux. C'est vrai avec un focus sur une partie qu'on aimerait mettre en avant.
Oui. En revanche, je pense que pour durer dans le couple... Il faut avoir une vision totalement différente de la vie. Quoi, moi, c'est la vision qu'on a eue dans notre couple, parce que bon, moi, je partais de très très loin, si vous voulez. Mon épouse avait beaucoup plus de facilité, je m'emportais beaucoup, j'étais un impulsif, voilà, bon, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que, à son contact et via l'amour, et ce que je voulais lui montrer, donc effectivement, ce côté aussi séduction, mais qui est un petit peu différent. Qui pour moi est moins dans le côté alouette et miroir. On est plus dans un côté de recherche de soi et vraiment aimer la personne, quoi. Alors je sais pas si j'exprime bien le sentiment que je souhaite exprimer.
Non mais je suis d'accord avec vous. À un moment donné dans un couple, il faut essayer d'être authentique.
Et c'est ça.
C'est ce que vous voulez dire. Mais je crois qu'il faut quand même essayer de garder une certaine séduction. Par exemple, si vous allez devant votre épouse, rester sans avoir pris votre douche et puis
oui,
avec des vêtements dégueulasses parce que vous avez bricolé toute la journée, vous oubliez cette part de séduction qui, me semble-t-il, reste indispensable quand on vit à deux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait, non, oui, tout à fait. Oui, ça, je vous rejoins pleinement, effectivement. Oui, il ne faut pas laisser aller, dans les deux sens d'ailleurs.
C'est la fameuse chanson d'Aznavour qui, je crois que c'est « Tu te laisses aller ».
C'est « Tu te laisses aller »,
voilà. Et c'est vrai que si on oublie dans le couple, bah, que quand même si on se connaît bien, même si on dort nu ensemble et qu'on fait l'amour ensemble, etc., qu'il faut rester un petit peu dans un rapport de séduction, je crois que c'est ça que ça veut dire. Le rapport de séduction dans le couple, voyez ?
D'accord, ok, on peut le voir comme ça. Oui, c'est ce que vous dites, je vous rejoins. Mais ce que je veux y ajouter, c'est que moi, ce que j'ai appris, et je l'ai appris, on va dire, ces 10-15 dernières années, plus particulièrement, parce que je me suis orienté un peu différemment, et j'ai réellement... On peut réellement... Parce qu'en fait, beaucoup de questions dans vos émissions passent en se posant la question, est-ce qu'on peut tout se dire ? Est-ce qu'il faut se garder un jardin secret ? Est-ce qu'on peut pas se garder ? Voilà.
Quel est votre avis alors ? Est-ce qu'il faut tout se dire ?
À 99%, on va dire.
Ah oui, quand même. Vous mettez.
C'est beaucoup. Hein. Vous la mettez haute, la barre.
Et mais moi, je suis aujourd'hui dans cet esprit-là. Et
oui, vous êtes dans le tout ou rien, en fait.
Non, c'est pas tout ou rien. Non.
Alors, qu'est-ce que vous lui cachez ? Qu'est-ce que c'est quoi ce 1% ? Parce que moi je veux 100%, hein, Philippe.
Ah, vous avez compris. Non, le 1%, il n'y a rien de méchant. Mais bon, après, c'est son jardin secret. C'est des choses vraiment personnelles, vraiment très, très. Ouais, bon, et encore. Non, je pense qu'on vraiment partage beaucoup. Quoi. Moi, j'ai la chance d'être avec une personne où je le considère comme mon âme-sœur. Donc, c'est vrai que.
Non, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, cette femme vous a révélé à vous-même, vous a fait grandir. Vous avez l'impression que grâce à elle, vous êtes devenu celui que vous êtes devenu. Alors, c'est très bien, c'est beau, mais attention de ne pas non plus trop l'idéaliser.
Voilà.
Ah, non. Je pense pas. Après, vous savez, je pense pas. Ça fait quand même 26 ans qu'on a de vie commune, plus ça va mieux, on s'entend. Après, non. Oui, j'entends ce que vous dites, Brigitte, sauf que...
Par exemple, Philippe, non, oui. Vous avez été dragué hier après-midi par une collègue qui a de beaux seins, un beau cul et un regard de braise.
Ouais.
Est-ce que vous allez le raconter à votre femme ?
Oui, ça m'est déjà arrivé, donc je l'ai dit, oui. Mais bon, ça m'arrive très rarement. La chance que j'ai, c'est que je ne dois pas avoir un physique... J'ai un physique très commun, je dis, parce que... Beaucoup...
D'accord, c'est parce qu'elle ne vous a pas dragué, c'est parce qu'elle ne vous a pas trop... C'est parce que vous n'avez pas pu l'embrasser et lui faire l'amour que vous avez pu le dire à votre femme, c'est ça. Mais si vous aviez fait l'amour avec elle, vous l'auriez dit à votre femme ?
Je pense que je ne l'aurais pas fait.
Vous pensez
Je pense, ouais. Ça, après... Non,
vous pensez avec quoi ?
Là, on est dans le cérébral. Mais,
D'accord.
Non, mais je suis d'accord avec vous, parce que j'ai écouté vos émissions et je suivrai votre conseil. Si jamais je la trompais, si un jour ça arrivait, je ne lui dirai pas, c'est une certitude, ça rentrera dans les 1%.
Oh, bah dites donc, c'est un petit pourcent hein, quand même.
Oui. Mais pour l'instant,
moi, je pense que vous baissez à 80%. Hein, si vous faites l'amour avec une autre femme, vous n'êtes plus à 1%, là, Philippe. Hein. Faut pas, vous me racontez des
aujourd'hui,
histoires.
Aujourd'hui, c'est arrivé, donc c'est pour ça que je peux me...
Oui, j'ai bien compris. Non, mais voyez, je suis sûre, si on allait creuser, on n'a plus le temps, vous avez de la chance, vous allez échapper à mon œil laser et à mon oreille laser, plus exactement. Mais je suis sûre que je trouverais plein de choses que vous ne lui avez pas dites, par exemple.
Il y a deux petites choses, il y a deux, trois petites choses comme ça.
Oui, il y en a bien plus.
Non, honnêtement. Je pense qu'on est réellement dans un échange.
Oui, mais je suis sûre que sur un plan, par exemple, de votre intimité, il y a des choses que vous ne lui avez pas dites.
Voilà, il y a deux, trois petites choses.
Oui. Oh, des toutes petites choses.
Petites choses.
Voyez, il y a sûrement.
C'est logique. Tout ça est normal.
D'interrogation par rapport à ça, quoi, ça va.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir un homme qui est bien aussi dans son couple depuis 26 ou 28 ans, je ne sais plus. On a eu Corinne, c'était 37 ans. Bon, il y en a encore.
La vie va bien,
absolument.
Oui. Après, c'est comme dans toute chose. Je pense qu'il faut aussi savoir se contenter de ce que l'on a, d'avoir conscience que...
Bon, écoutez, elle a l'air pas mal, la vôtre, hein, ça va.
Ah non, moi, c'est une femme idéale, c'est moi le pénible, donc...
Mais vous avez, en tout cas, vous avez...
Non, mais elle vous a changé, donc ça va bien.
Ça va, merci, madame. En tout cas, vous avez de l'humour et vous réagissez assez vite à ce que je dis, donc vous devez...
C'est bon signe.
C'est plutôt bon signe pour moi. Merci beaucoup, Philippe. En étant toute fin d'émission, je rappelle le titre du livre de Sylvain, Restons fermes, c'est aux éditions Erol. Et l'autre dont vous parlez beaucoup, de l'égoïsme partagé,
c'est aux éditions Erol aussi.
C'est aux éditions Erol aussi, voilà. Tout de suite, vous retrouvez Trina et Bruno Denis, son invité, pour C'est votre avenir. Et demain, on sera avec Stéphane Clerget, comment aider son ado à passer un bel été. Je vous embrasse, à demain.